Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Il y a eu un point de presse à 13h et il a été question de bonnes nouvelles pour les finissants du secondaire. Il y aura des bals de finissants, il y aura des cérémonies aussi de diplomation pour que les parents puissent voir le fruit de 12 ans de scolarité. Quand on est en secondaire 5, ça fait 12 ans qu'on est à l'école et on sait que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les parents sont toujours très émus quand ils peuvent voir leur fils, leur fille obtenir leur diplôme. C'est souvent le fruit de beaucoup, beaucoup d'efforts et de sacrifices. OK. Par contre, ça va être après le 8 juillet. On veut donner le plus de temps possible au plus de jeunes possible d'avoir une première dose de vaccin qui fasse effet.
Ce qu'on propose, c'est de dire, bon, d'abord, la remise des diplômes avec les parents va pouvoir se faire en respectant les consignes de distanciation dans les écoles, même en dehors des heures régulières. Pour ce qui est du bal comme tel, le party, ce qu'on a convenu avec la santé publique, c'est de dire... La majorité des jeunes devraient avoir reçu une dose d'ici le 24 juin. Bon, comme on l'a souvent dit, ça prend 2 semaines pour avoir plein effet. Donc, à partir du 8 juillet, on pourrait avoir des bals à l'extérieur, mais avec des chapiteaux, puis des vrais bals. Ça veut dire rapprochement de toutes sortes permis.
Et le PM a prévenu que ce serait... C'est un spécial. On fait un spécial, une exception, parce que les bals, c'est spécial, comme on dit.
Ce qu'on a convenu avec la santé publique, c'est qu'on fait un spécial. Ça veut dire, soyons bien clairs, là, les jeunes vont pouvoir danser ensemble puis être à moins d'un mètre. Là. Donc, on fait un spécial sans masque.
Donc, un peu après 16 heures, on va revenir là-dessus. On va parler à une adolescente avec qui on avait parlé la semaine passée, qui était bien, bien triste. J'imagine qu'elle est désormais bien, bien contente. Il y a eu d'autres sujets abordés quand même au point de presse de 13 heures du trio santé. Il était question notamment du passeport vaccinal, ou en tout cas de la preuve de vaccination. Quand les gens vont être vaccinés complètement, ben, par exemple, le tourisme va être plus facile pour sortir du pays, pour venir au Québec, François Legault l'a dit. Et Horacio Arruda a levé le voile sur ce que cette preuve vaccinale va permettre et ne pas permettre.
Dans le contexte d'une autre vague, le fait d'avoir le passeport vaccinal ou d'avoir la preuve de vaccination va changer probablement le type d'intervention qu'on va faire. Moins d'isolement. Donc, tout ça, là, ça va être des éléments qui vont être faits. Nos principes demeurent les mêmes, c'est-à-dire s'assurer d'une bonne qualité de l'information, mais aussi ne pas brimer les individus à des droits personnels individuels. Mais s'il y aurait des avantages, ce serait des bénéfices qu'on appellerait pas majeurs. On ne veut pas utiliser le passeport vaccinal, par exemple, dans le milieu de travail ou quoi que ce soit pour donner accès au travail ou à l'éducation, parce que ce sont des droits.
Donc, il y a été aussi question d'une autre forme de preuve, là, le code QR que beaucoup de Québécois ont reçu après avoir été vaccinés. Moi, je suis allé me faire vacciner il y a un mois et quelques avec Catherine Beauchamp. Mm-hmm. Moi, j'ai pas reçu le code QR. Toi, Kat, tu l'as eu?
Oui, je l'ai eu. Okay. J'ai eu la même journée que Philippe Quentin, qui était bien avant nous.
Bon, ben, on voit, il y a un peu d'eau dans le gaz et M. Christian Dubé, le ministre de la Santé, a expliqué c'était quoi les ratés. Il semble qu'on applique un principe de précaution au nom de la sécurité des données confidentielles des Québécois. On va écouter le ministre.
Donc, il y a 4 millions de personnes qui ont reçu soit un courriel ou un texto. On va mettre en place un portail où les gens vont pouvoir aller confirmer que l'information qu'on a sur eux et la bonne information et qui veulent recevoir le code QR. Alors, si les gens ne l'ont pas reçu, c'est pas parce qu'on n'a pas l'information, mais on veut être certain que l'information qu'on a sur eux, elle est complète dans son intégralité.
Il est question d'être sûr là, sur 3 paramètres, par exemple. Si on est pour m'envoyer un code QR et qu'on n'est pas certain de certaines données qui ont été rentrées, là, ce bout-là est un petit peu plus obscur là, dans les explications du ministre, mais il semble que ça s'en vient. Il y aura un portail. Tout au long de l'émission, on va revenir sur d'autres aspects, notamment le premier ministre Legault qui a parlé de son propre bal des finissants. Je vais vous faire jouer la clip un peu plus tard. OK, on me dit que Chloé Brideau est de retour. Salut, Chloé.
Allô.
Quand on t'a parlé la semaine passée, tu étais très, très triste. Et là, depuis l'annonce du premier ministre, quel est ton état d'esprit?
Je suis tellement heureuse. Honnêtement, je pense que c'est la plus belle nouvelle qu'on aurait pu avoir pour finir l'année. Surtout qu'il fait chaud ces temps-ci dans l'école. Et on est pas mal écœurés, si je peux me permettre, d'avoir ce petit coup de pouce de dire comme, hey, on vous a entendu. Ça fait tellement du bien à entendre, vous avez même pas aidé.
Comment ça a réagi dans ton groupe d'amis?
Moi, quand je l'ai appris, on était dans un cours. Okay. Donc, c'est une amie qui a vu ça popper sur son téléphone, puis elle était comme, oh my God! Il va y avoir des balles de finissants. Puis, je pense qu'on était tous vraiment contents de voir qu'on va pouvoir, comme j'ai dit dans l'autre jour, qu'on va pouvoir dire bye à nos professeurs qui ont vraiment été là pour nous cette année, à nos amis aussi, parce qu'il y en a certains qui partent vraiment loin. Fait que de pouvoir juste leur dire au revoir, là, ça nous fait tellement plaisir. Là.
Et t'as choisi ta robe?
Oui. Moi, ça fait très longtemps qu'elle est choisie. Elle est dans mon garde-robe. Je la regarde en espérant vraiment fort de pouvoir la porter. C'est sûr que moi, j'avais déjà organisé quelque chose avec ma meilleure amie, puis avec mes meilleurs amis aussi, on avait déjà préparé quelque chose. Fait que non, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente.
Et dis-moi, à mon époque, il y a très, très longtemps, c'était, d'abord, fallait savoir comment on y allait, est-ce qu'on louait une limousine, etc. Et l'autre grande question, c'est qui nous accompagne? Est-ce que c'est encore une question aussi importante?
Ben oui, c'est sûr que oui. Mais étant donné les circonstances, je vais être bien honnête avec vous, moi, j'ai pas prévu ça du tout. Étant donné qu'on n'était pas sûr si on était censé en avoir un ou pas, on n'a pas vraiment pensé à ça. Mais c'est sûr que s'il y en a un, on va tous se préparer. Et on va regarder les options, si on y va avec nos meilleurs amis ou si on y va avec un garçon ou une fille. Là, ça dépend de chacun. Alors non, j'ai vraiment hâte de voir.
Parfait. Bon, ben écoute, tu le sais, c'est après le 8 juillet, Chloé. Faut que tout le monde ait eu le temps de laisser à la première dose de vaccin d'avoir son plein effet. Écoute, bonne chance. Je vais faire mon grand-papa, puis je vais te dire pas trop d'excès, OK?
Ben non.
Okay.
J'avais de la vie.
Ben non, vous allez même pas boire, je le sais bien. C'est plus à la mode de boire de l'alcool chez les ados. Merci beaucoup, Chloé.
Ça me fait plaisir.
Salut, c'était Chloé Brideau, finissante de secondaire 5. On va réécouter le premier ministre qui parlait de son jeune temps.
D'abord, je veux vous dire que on vous a bien entendu, tout le monde. On a travaillé fort. On se rappelle tous, en tout cas moi, je me rappelle de mon bal au secondaire. Ça avait lieu au Vaudreuil-Hinn, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui était à Dorion. Puis ça avait fini aux petites heures du matin. Puis ça a été mémorable.
Le Vaudreuil-Hinn, Catherine, là, ça rentre dans ma messagerie, c'est l'ancien Vaux à Dorion.
Ah, ben oui, le Vaux, bon. OK, là, je connais. Là, bon. Oui, je me souviens. OK, merci de me rappeler. Moi, je suis de l'époque du Vaux, pas du Vaudreuil-Hinn.
Et Philippe, il y a quelqu'un qui m'écrit, je suis de Québec, né en 62, et j'ai eu un bal.
Ah, ben, ça a dû commencer trois ans après moi.
Et Kat, il y a quelqu'un qui dit, Catherine devait se tenir au bambou.
Non, à Pamalou.
OK, parfait.
Ça,
parfait.
C'était une autre place à Valleyfield. Mais je vais juste te dire que maintenant, là, les gens ne vont plus au bal à compagnie. Les gens, ils vont en groupe d'amis. C'est beaucoup plus sympathique.
Fini, hein?
Il y a fini la pression là, d'avoir un gars pour t'accompagner. Tellement... Mon Dieu, on avait besoin de vivre pour être aux côtés d'un gars, pour exister dans un bal.
Mais c'est quand même triste de penser que... Moi, je me souviens pas d'avoir eu un bal, mais je trouve ça triste de penser que mon garçon, ben, il aura le même souvenir que moi, il n'y en aura pas lui
non
plus.
Parce
que c'était l'an dernier, puis et combien d'autres qui l'ont raté. Ça, je trouve ça regrettable.
Ben, quand on parle de rites de passage qui ne reviennent pas, ben ça en fait partie. Parfait. Merci, Philippe et Catherine.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
avant la pause, tantôt, j'ai parlé de ce qui s'est passé à London. Ça a tout l'air d'un crime d'extrême droite. Un jeune homme qui a lancé son pick-up, son camion pick-up, sur une famille d'Ontariens, des musulmans. 5 personnes, imaginez, la seule personne qui a survécu est encore là, entre la vie et la mort, un jeune garçon de 9 ans. Sinon, son père, sa mère, sa sœur et sa grand-mère ont été écrasés. La police de London qui a confirmé que l'automobiliste qui a foncé sur la famille avait des penchants islamophobes dont il ne se cachait pas. On va parler de tout ça avec Dr Marie-Ève Cotton. Elle est psychiatre. On va parler notamment de notoriété zéro. Dr Cotton, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
C'est quoi notoriété zéro?
C'est un mouvement qui existe, qui a lieu aux États-Unis suite à plusieurs tueries de masse là-bas, qui est repris dans plusieurs endroits dans le monde, dont ici au Québec, qui essaie de conscientiser la population et les médias sur l'impact qu'a la médiatisation des tueurs de masse sur la perpétuation du phénomène. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs études, deux études dans les dernières années qui ont clairement démontré que quand il y a une tuerie de masse, il y a un effet de contagion. C'est-à-dire que les chances que des tueries de masse se produisent dans les deux semaines suivantes est augmentée. Et on s'est mis à réfléchir un peu comme c'était le cas sur le suicide, parce qu'il y a plusieurs années, on a constaté que la façon de médiatiser les suicides avait un effet d'entraînement et un effet de contagion dans la population. Et il y a des règles qui ont été émises pour la médiatisation des suicides à ce moment-là. Et c'est un peu le même genre de réflexion. Donc, tout ce qui est... c'est un mouvement qui va critiquer, va amener une réflexion de dire tout ce qu'on fait dans les médias, et ça inclut maintenant les médias sociaux, parce qu'on est tous responsables de ce qu'on publie sur nos pages dans les médias sociaux, tout ce qui peut avoir un effet de mettre une visibilité excessive à l'auteur du tueur ou de glorifier son acte d'une façon ou d'une autre, peut perpétuer le phénomène. Et on glorifie pas toujours en s'en apercevant, c'est-à-dire que des termes comme sur un journal ou un article, le monstre a commis tel... Donc, des termes comme ça, qui sont des termes très forts, très sensationnalistes, pour les gens, ça peut être vu uniquement médiatiquement, mais pour des tueurs, cette espèce de grandiosité-là, de ces termes-là, peut être au contraire recherchée. Parce qu'on voit que les tueurs de masse ont souvent étudié les modus operandi d'autres tueurs, ils ont souvent eu comme idole, comme modèle, ont étudié comment ils ont procédé. Donc, tout ce qu'on publie qui peut fournir une certaine glorification au tueur peut avoir un effet d'entraînement. Donc, c'est un mouvement qui suscite cette réflexion dans l'espace public et les médias.
Mais vous admettrez avec moi, Dr Cotton, que ça pose une question qui est délicate. Quand il s'agit du suicide d'un individu, d'une personne qui se déroule à l'abri des regards, qui n'a pas d'incidence dans le public immédiat, c'est une chose de ne pas en parler. Pour pas qu'il y ait d'effet de contagion. Cependant, quand quelqu'un prend son camion et lance ça sur 5 êtres humains, c'est dur de pas en parler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire?
Absolument, parce que la question, c'est pas de ne pas en parler, mais de comment en parler. Effectivement, parce que c'est des informations d'intérêt public. Donc, ce que le mouvement dit, c'est qu'on peut évidemment nommer l'événement. Décrire l'événement. On peut nommer le tueur. On invite à éviter de nommer le tueur dans les titres des journaux ou de le répéter plusieurs fois dans un même article. On évite, s'il y a des photos du tueur qui sont mises, on invite à ce que ce soit les photos de son arrestation et non pas des photos où lui-même s'est mis en scène, soit sur les médias sociaux ou en prévision de son acte. Par exemple, il peut s'être photographié avec un costume d'armée ou des armes, et on voit que c'est sa propre mise en scène qu'il voulait communiquer à travers l'acte, donc d'utiliser plutôt des photos de son arrestation, si on en utilise, d'éviter les termes sensationnalistes, de mettre plus d'emphase, même si on rapporte l'événement et on parle brièvement du tueur pour donner l'information de base au public, mettre plus d'emphase sur les identités et les histoires des victimes que sur celui des tueurs. Par exemple, c'est peut-être pas nécessaire d'aller faire une entrevue avec le professeur de 5e année du primaire d'un tueur pour voir... Il y a comme une limite à mettre dans la biographie, si vous voulez, du tueur, et de mettre davantage d'emphase sur les victimes. Essayer de ne pas verser trop vite sur le fait de tomber tout de suite dans la maladie mentale. Ça m'avait frappé dans la tuerie du Vieux-Québec aussi, de se mettre à parler d'une cause unique qui serait de la maladie mentale, alors que chez les tueurs de masse, c'est seulement 22 %. sont atteints de troubles mentaux, qui sont ou non reliés à leurs gestes, donc de pas faire comme ça des simplifications. Et donc, l'idée de pas de ne pas en parler, mais d'essayer de ne pas surexposer la population à l'identité, à la photo et à la mise en scène de lui-même, si vous voulez, du tueur.
Docteur Coton, vous êtes psychiatre et bon, je ne vais pas vous demander de l'évaluer à distance, on ne connaît rien de lui, mais les personnes qui causent des massacres semblables,
oui.
c'est quoi le dénominateur commun entre ces personnes-là?
Le plus grand dénominateur, c'est que ce sont des hommes à 96%. Ensuite, ce sont des personnes solitaires à 70%. Ils sont aussi assez souvent, dans l'ordre de 40%, ils ont été victimes d'intimidation et de harcèlement dans leur vie, ce qui peut avoir amené chez eux certaines idées de vengeance et d'un jour se venger contre la société, si vous voulez. 60% ont des problèmes d'alcool ou de drogue et beaucoup ont une recherche de visibilité publique, une recherche de notoriété, même si c'est dans l'horreur. Évidemment, on parle d'anti-héros, personne va, tu sais, la majorité des gens sont horrifiés par leurs gestes, mais l'horreur, c'est une forme d'attention. Vous savez, on est dans une société du spectacle, les gens veulent la visibilité, les gens veulent la gloire beaucoup. Tout le monde n'est pas outillé pour aller la chercher de la même façon. Donc, pour ces individus-là, avec toute la complexité de ce geste-là, la notoriété, ils vont la chercher dans un geste violent, dans un geste d'horreur. Donc, on s'est aperçu que ces composantes-là, c'est ce qu'on a pu cartographier, si vous voulez, dans ce qu'on sait à date des tueurs de masse, les caractéristiques les plus fréquentes, les plus prédominantes.
Dr. Coton, merci.
Ça m'a fait plaisir.
C'était une nouvelle de Thomas Gerbet, journaliste de Radio-Canada aujourd'hui. Il y a un programme d'aide aux employés de l'hôpital Sainte-Justine là, qui a proposé les services non pas d'un ou d'une psychologue à une femme qui traversait un deuil familial difficile, mais d'une sexologue, parce qu'il y a pénurie de psychologues. Donc, on s'est tourné vers un sexologue. On parle de tout ça tout de suite avec Dr. Christine Groux. Elle est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Dr. Groux, bonsoir.
Bonsoir.
Dr. Groux, pourquoi il y a une pénurie de psychologues au Québec?
Ben, en fait, c'est peut-être pas tant qu'il y a une pénurie de psychologues au Québec, qu'il y a une demande très, très grande des services psychologiques au Québec. On est dans un contexte de jamais vu, là. Je veux dire, on est dans un contexte où même les cabinets privés sont pleins à craquer. Mmh. Et on n'a jamais vu ça. En fait, c'est sûr qu'après 14 mois de pandémie, on s'attendait à ce que la détresse, à ce que la santé mentale se porte moins bien, mais il y a eu vraiment une augmentation des hausses de consultations, en urgence, de l'anxiété, des éléments dépressifs, etc. Alors, c'est effectivement du jamais vu. C'est une situation qui est assez unique, je vous dirais.
OK, je le souligne, là, l'Ordre professionnel des sexologues a tenu à réagir à l'article de Radio-Canada. Ce qu'ils disent à l'Ordre des sexologues, là, c'est que de consulter un ou une sexologue, c'est aussi bon en termes de psychothérapie que consulter un psychologue. Est-ce que c'est vrai?
Bon, je vais essayer d'expliquer les choses simplement. D'abord, les sexologues sont des professionnels de la santé mentale, des relations humaines, eux aussi. Ils ont des maîtrises, puis ils sont formés pour faire des interventions de soutien, de l'accompagnement ou de l'intervention de crise. Il y a 45% des sexologues qui détiennent un permis de pratique de la psychothérapie. Alors, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'ils sont en mesure de donner des services en santé mentale. Ils sont pas tous en mesure d'exercer la psychothérapie, mais beaucoup le sont. Et ce qui est important de comprendre, là, c'est qu'en santé mentale, il y a plusieurs services, il y a plusieurs soins qui sont nécessaires, importants. Ils sont pas mal tous indispensables, mais ils ne sont pas nécessairement interchangeables. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Mmh. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin, par exemple, d'une évaluation psychologique ou encore d'une psychothérapie ou d'une évaluation neuropsychologique, c'est pas un service interchangeable. Cela dit, il y a d'autres professionnels qui peuvent exercer aussi la psychothérapie. Et là, il faut juste voir est-ce que la personne qui consultait a obtenu le bon service. Mmh. Puis, à défaut de ça, ben est-ce qu'elle a eu un service plutôt que rien en attendant d'avoir un bon service? Parce que actuellement, il faut comprendre que Quand on n'est pas capable d'obtenir un service, il faut les multiplier, les services. Hein? C'est-à-dire qu'il faut en offrir une gamme assez exhaustive, puis il faut les multiplier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement remplacer, mais il faut ajouter pour être capable de répondre aux besoins de la population.
OK, Dr Groulx, hier, je vous ai cité dans une chronique justement sur le manque de psychologues et j'expliquais là que l'Ordre des psychologues était proactif pour essayer d'arrimer là, les demandes avec les psychologues. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire que l'Ordre des psychologues avait créé une fausse pénurie de psychologues en exigeant que les psys qui puissent pratiquer aient des doctorats. Est-ce que nos voisins ontariens exigent que les psys aient des doctorats pour pratiquer?
Absolument. Mais je vous dirais que partout en Amérique du Nord, le doctorat, de toute façon, existait avant qu'on l'exige au Québec. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a réservé des activités en santé mentale, comme par exemple la psychothérapie, comme l'évaluation des troubles mentaux, puis qu'on a examiné les compétences, on n'y arrivait pas nécessairement exclusivement dans le contexte d'une maîtrise. Alors donc, d'avoir un doctorat obligatoire. Encore là, ce que je vous dirais, c'est qu'au début, parce que le doctorat est obligatoire depuis 2006, puis au début des années 2000, quand ça se préparait, il y a eu une baisse temporaire parce qu'il y a eu une fermeture des programmes de maîtrise. Puis à ce moment-là, le gouvernement avait demandé un plan aux universités qui visait à augmenter le nombre de places au doctorat, puis à limiter aussi la durée des études, parce qu'il faut comprendre qu'un doctorat, c'est 5 à 6 ans après 3 années de baccalauréat. Donc, mais tu sais, au début des années 2000...
Je vous arrête juste une seconde, Dr Groulx. Quand on n'exigeait pas de doctorat, est-ce que les Québécois étaient plus mal servis par des psys qui avaient des maîtrises?
Ben, en fait, je pense que les Québécois étaient bien servis, mais cela dit, il y a eu des avancées de la science, il y a eu des activités qui ont été réservées. Ça veut dire que le niveau de compétence, puis c'est vrai dans l'ensemble des professions de la santé mentale, hein, le niveau de compétence a augmenté dans les 20 dernières années. Mais juste pour vous donner des chiffres, là, au début des années 2000, il y avait grosso modo presque 6000 psychologues au Québec. Actuellement, il y en a 8860 quelques. Donc, on n'est pas en décroissance de membership. Par contre, les gens consultent plus parce que on a réussi à diminuer les tabous dans la majorité des grandes métropoles, du moins. On a réussi à faire une éducation de ce que c'est la santé mentale. On a réussi à rentrer dans les mœurs que si on s'occupe pas de sa santé mentale, on s'occupe pas de la santé globale, puis que la santé physique, la santé mentale, c'est pas des choses complètement dissociées. Alors, on a amené les gens à consulter, puis maintenant, ben il faut livrer, il faut être capable de travailler sur l'accès, d'autant que les besoins, tu sais, les besoins, même avant la pandémie en santé mentale,
on avait un
problème d'accès. Il était déjà grand, puis le problème d'accès est juste accru.
Très bien. Merci beaucoup, Dr Groulx.
Ça m'a fait plaisir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Luc.
Salut Patrick.
Réaction aux propos de Dr Groulx?
Ben écoute, moi je pense, puis là c'est un point de vue de profane, hein?
Oui.
Je pense que c'est une situation qui ne peut pas être résolue. C'est pas une question de transférer des psychologues, d'en engager plus. On peut pas de les transférer du privé vers le public, par exemple, de les faire travailler plus, d'en former plus.
Luc, j'ai parlé à ce micro là à des psys en bureau privé qui prennent même plus les messages parce que la demande est trop forte.
Ben oui, c'est ça, 20 000 personnes sur la liste d'attente à la fin de la pandémie. Il manque, selon l'estimation du ministère, il manquerait 800 psychologues dans le réseau public d'ici 5 ans. C'est impossible à former. Et on sait que les psychologues sont nécessaires. Tu sais, ça évite des suicides, des agressions, des dépressions, des dépenses de santé élevées, puis catastrophiques. Là, quand il y a un suicide, c'est pas rien, c'est pas comme un bobo. Là. Et il y a de nombreuses études qui démontrent que chaque dollar que tu investis va t'en faire économiser beaucoup à cause de ça. Les évaluations, c'est de 2 à 17 dollars économisés pour une thérapie qui fonctionne en soins de santé. Parce qu'une personne dépressive, elle va continuer d'avoir des problèmes, toutes sortes de problèmes de santé, d'arythmie cardiaque, de fatigue, de multiples maux, etc. Oui. C'est la même chose avec Alzheimer. Alzheimer, ça a été prouvé que si tu fais plus de rencontres, plus d'activités, moins d'isolement, ça a un effet mesuré sur la maladie. C'est la même chose avec la santé mentale. Ça a été prouvé que s'il y a des activités, si on donne du non médical, pas juste des pilules, mais qu'on a un accompagnement, on a un encadrement, on a des rencontres, les problèmes de santé mentale diminuent. Mais ça se fera pas. Il y aura pas plus de psychologues, il y aura pas plus d'intervenants en santé mentale, il y aura pas plus d'activités pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, parce que cette demande-là, elle est gigantismique, puis elle se produit dans le cadre d'une augmentation effarante des soins de santé liés au vieillissement.
Luc, même avant la pandémie, là, okay, je pense un an avant, là, j'avais fait une recherche par mots-clés, okay, détresse psychologique, puis je voulais voir qui était en détresse psychologique. Quand tu prends toutes les sous-strates de la société, là, des strates de professionnels, des groupes d'âge, tout le monde est en détresse psychologique. Je le dis là sans aucun sarcasme dans ce que je dis.
Tellement d'accord avec toi.
Mais tout le monde vit un stress immense. Je pense qu'on sous-estime à quel point les gens ont de la pression de nos jours.
Ben absolument, absolument. Tout le monde pourrait bénéficier d'une psychothérapie. Et d'ailleurs, ben ça c'est une part du problème importante, c'est que les psychologues n'ont pas besoin de travailler au public. Il y en a seulement 3 000 sur 8 000 qui travaillent au public. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui sont prêts à payer 110 $ de l'heure. Puis eux-mêmes, ces personnes qui travaillent sont prêtes à payer 110 $ de l'heure vont être mises sur des listes d'attente. Alors, il y a une demande infinie. Il y a une demande infinie. D'ailleurs, tu sais qu'il y a 4 fois plus de psychologues au Québec qu'en Ontario. Et la demande ne dérougit pas. Alors, tu sais, on ne peut pas juste demander à l'État chaque soir, on fait ça nous autres, hein. Demander à l'État, faudrait investir plus là-dedans. Puis pas à coup de
oui, hier, c'était les arbres dont tu nous parles.
Ben oui, les arbres. Mais tu sais, le vieillissement, la maison des aînés, la santé mentale, la DPJ. On peut pas à chaque fois dire, ben là, faudrait que l'État mette 750 millions dans ce domaine-là aussi. Alors, à un moment donné, il faut parler de réformes en profondeur. Tu sais, moi, je parle souvent du salaire des médecins. Ça fait partie de la démocratisation de la santé. Il va falloir trouver... Moi, je ne les connais pas toutes les solutions. Hein. Bien entendu que je ne les connais pas, et surtout pas en psychologie. Mais quand j'écoute les solutions de M. Carman, par exemple, je m'inquiète.
Lionel Carman, le ministre des services sociaux.
Ben oui, je m'inquiète parce que c'est les solutions qui étaient proposées pour les préposer aux bénéficiaires avant la pandémie. Il faudrait qu'on donne des bourses pour que les gens fassent plus d'études dans le domaine. Il faudrait qu'on donne des bourses pour des primes d'éloignement. Faudrait en embaucher plus. Faudrait augmenter leur nombre d'heures de travail. C'est du flou. Puis s'il n'y a pas d'adéquation entre le problème puis la solution, il n'y en a pas. Alors, si on blâme pas le gouvernement, je veux pas blâmer M. Carman non plus, mais il faut pas non plus arriver avec des solutions qui sont pas adéquates, là, qui sont trop légères, trop superficielles. Elle est où, la solution? On a vraiment besoin d'avoir la vérité dans le domaine. On voudrait que le ministre nous fasse un vrai portrait de la situation, puis nous dire, regardez, oubliez ça, là, dans ce domaine-là, on sera pas capable. Surtout pas avec des crédits santé qui diminuent de façon constante au fédéral. Ils sont passés de 35% à 22%, puis qu'ils en vont vers le 19%. Ben, on y arrivera pas.
Merci, Luc. On se reparle demain.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.